journal Sébastien Legenie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, on vient de l'entendre, un président qui change d'attitude et donc pas de direction. Retour sur la conférence de presse très attendue d'Emmanuel Macron hier, pour retraite, institutions, écoles. Les chantiers ouverts sont nombreux, avec un grand absent selon les ONG, le chantier de l'environnement. Pas de grand tournant annoncé. Dans ce journal, on entendra leur déception. Beaucoup plus radicale en revanche la réforme de la haute fonction publique, avec la suppression confirmée de l'État, nous écouterons le chef de l'État sur ce point. Et puis nous irons à Saint-Briac en Bretagne, très active pendant le grand débat, une commune qui aujourd'hui reste sur sa faim. Dans le reste de l'actualité, un lycée professionnel du Puy-en-Velay vandalisé, des manifestations monstres au Soudan. On parlera aussi de la carte vitale bientôt sur le téléphone portable et du Paris-Dakar organisé l'an prochain en Arabie Saoudite. Droits de l'homme, rouler, il n'y a rien à voir.
Le député Les Républicains et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, Éric Woerth, sera l'invité de France Inter à 7h50.
France Inter.
Près de 2h30 assis derrière un bureau pour tenter de mettre fin à 5 mois de crise politique, Sébastien.
Le président de la République a-t-il convaincu? Les semaines à venir le diront. En tout cas, la déception est forte ce matin chez les défenseurs de la planète. Hier, Emmanuel Macron a fait 2 annonces principales. Un conseil de défense écologique rassemblant tous les ministères concernés et surtout la création d'une convention citoyenne. En clair, 150 citoyens seront tirés au sort dès le mois de juin afin d'émettre des propositions sur la transition énergétique qui seront directement soumises sans filtre au président. Un nouveau comité qui risque toutefois de faire perdre du temps alors qu'il y a urgence pour les ONG. Célia Kiyré a recueilli leur amertume.
Ces 150 citoyens devront définir eux-mêmes de nouvelles mesures sur le logement ou les transports. Ils pourront également proposer des solutions de financement et leurs idées seront soumises au vote des députés ou à un référendum. Emmanuel Macron le promet, mais pour Jean-François Julliard de Greenpeace, cette réflexion collective arrive un peu tard.
On attendait des mesures concrètes dans le domaine du logement, dans le domaine de la production d'énergie, et on se retrouve avec une convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort. Pourquoi pas, mais on n'est plus dans ce temps aujourd'hui du dialogue, du débat, de la concertation. On est dans le temps de l'action climatique. Et malheureusement, on n'a pas le sentiment que le chef de l'État a compris qu'il était aujourd'hui plus que temps d'agir.
Quant à Jean-David Abel de France Nature Environnement, il estime que la méthode est brutale par rapport aux ONG ou aux associations qui ont déjà réfléchi à toutes ces questions.
C'est étonnant, d'une part, de si peu écouter les propositions de la société civile et tout à coup de sortir ton chapeau une instance de 150 citoyens tirés au sort qui vont découvrir les sujets et faire des propositions qui, de toute manière, j'en suis convaincu, ressembleront aux nôtres à la fin.
Et par exemple, dès le mois de juin, ces citoyens devront commencer à réfléchir à de nouvelles aides plus efficaces pour changer de voiture ou de chaudière. Pour les organisations qui ont lancé la pétition L'Affaire du siècle, cette convention risque tout simplement de retarder la prise des bonnes décisions.
La déception des ONG recueillie par Célia Kiyré.
Et outre l'environnement, Sébastien, une quinzaine d'annonces au total à retenir.
Parmi lesquelles une baisse d'impôts de 5 milliards d'euros, une réindexation des retraites de moins de 2000 euros à partir de l'an prochain, la mise en place d'un montant minimum de retraite de 1000 euros par mois pour ceux qui ont cotisé pleinement, pas plus de 24 élèves dans les petites classes, un référendum d'initiative partagée rendu possible à partir d'1 million de signatures de citoyens, une proportionnelle de 20% au Parlement et enfin, très symbolique et attendu, la suppression de l'ENA afin de repenser l'action de l'État sur le terrain. On écoute Emmanuel Macron.
Pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA. Pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux, il faudra d'ailleurs sans doute garder les locaux, les agents qui y sont et qui sont d'excellente qualité et profondément engagés. Mais je ne crois pas, sur ce sujet, au rafistolage, à la réforme un peu. Ça a déjà été tenté par à peu près tous mes prédécesseurs. Non, si vous gardez les mêmes structures, les habitudes sont trop fortes, les habitudes sont là.
Et puis ajoutons à cette suppression de l'ENA la réforme des grands corps de l'État et surtout de l'emploi à vie garanti par ces structures. Plus généralement, le chef de l'État a donc l'intention de lancer un nouvel acte de décentralisation. Une mission sera confiée au Premier ministre sur la question le mois prochain, avec pour ambition la création de ce qu'il a appelé des maisons France Service pour rapprocher les services publics du terrain, comme ça se fait au Canada. Alors, sur toutes ces mesures, qu'en pensent les citoyens? Nous sommes allés voir à Saint-Briac, commune bretonne, parmi les premières à avoir participé au grand débat, une commune partagée entre bienveillance et scepticisme. Rémi Brancato.
À Saint-Briac, c'est Éric, retraité, qui avait demandé au maire de mettre en place des cahiers de doléances. Il trouvait le mouvement des Gilets jaunes intéressant et forcément, il a écouté Emmanuel Macron avec attention.
J'étais un peu sceptique avant cet entretien et je me suis dit, bon, je vais peut-être lui laisser un peu de sursis.
Résultat de bonnes surprises pour lui, comme la mise en place de Maison France Service pour les services publics locaux ou le renfort de la décentralisation.
J'ai envie de lui faire confiance pour un petit moment. Si dans 6 mois, on s'aperçoit que rien n'a bougé, on aura peut-être autre chose à faire et de nouveau sortir dans la rue. Mais moi je proposerais aux Gilets jaunes de faire une petite trêve.
Pas sûr que tous les habitants de Saint-Briac soient du même avis. Après 5 débats, 50 pages de résumé, ils réclamaient plus de justice fiscale, plus de moyens dans les écoles notamment. Et sur le concret, justement, le maire Vincent Denby-Wilkes reste sur sa faim.
Il y avait bien sûr des demandes sur des principes généraux, mais il y avait aussi des demandes sur la baisse de l'impôt, le désendettement. Ces éléments-là ne semblent pas encore au point. Les attentes sont exprimées depuis maintenant de longs mois. Il faudrait vraiment qu'il y ait des traductions concrètes très vite.
Pour lui, Emmanuel Macron a bien ciblé les problèmes, mais en restant très général, presque flou, il n'a peut-être pas pris la mesure de l'urgence à y répondre.
Le reportage de Rémi Brancato, l'intervention du président pour sortir du grand débat, on y revient toute la matinée dans le 7-9 et sur franceinter.fr.
Et puis Sébastien, fini la carte vitale oubliée ou perdue.
La carte vitale bientôt sur votre smartphone. L'expérience sera lancée dès cette année et le système généralisé en 2021, annonce hier d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, les précisions de Manuel Ruffez.
Ce sera ni plus ni moins que la version dématérialisée de notre carte vitale. En partant d'un constat, la population en France est désormais largement équipée en smartphone. On en a tous dans nos poches, vous dit-on, et même mieux, quand on l'oublie à la maison, on fait demi-tour, c'est rarement le cas pour une carte vitale. Alors voilà, l'application est destinée à devenir l'outil d'identification et d'authentification des patients dans le système de santé. Il n'y a sur votre carte vitale que des données administratives qui déterminent le type de droits qui vous sont ouverts pour vos remboursements. Et le patient pourra accéder, lui, à ses droits, à jour, en toutes circonstances, et à quelques démarches en ligne, comme la déclaration de médecin traitant. Tout cela fait partie d'un processus plus global qui comprend également, par exemple, la dématérialisation des ordonnances ou encore le carnet de santé numérique pour faciliter les partages d'informations.
Manuel Ruffez, saccage en règle d'un lycée professionnel au Puy-en-Velay. Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs individus cagoulés ont vandalisé l'établissement Jean Monnet et agressé le proviseur. Une plainte a été déposée par l'inspection d'académie. L'établissement doit rouvrir lundi. L'été n'a pas commencé que plusieurs départements sont déjà soumis à des restrictions d'eau. Une dizaine de départements comme le Puy-de-Dôme, le Rhône, l'Isère ou la Creuse, dans l'Indre également, où l'on constate un déficit de plus de 35% depuis un an. Et puis l'orgue de Notre-Dame est sauvé, c'est confirmé, rien n'a brûlé, rien n'a fondu. Témoignage de l'organiste qui a assisté au début de l'incendie, selon qui le grand orgue de Paris, de Notre-Dame, devra être nettoyé mais n'aura pas à être démonté.
7h38 à l'étranger, aux États-Unis, Sébastien, un nouveau candidat à la présidentielle de 2020, plein de promesses et des casseroles.
Dernière en date à s'être déclaré chez les démocrates, le 20e candidat, Joe Biden, 76 ans, dont 45 passés en politique. Il est pour l'heure en tête des sondages. L'ex-vice-président de Barack Obama a pour lui sa longue expérience, mais aussi une collection de lourdes maladresses. À New York, Loïc Loury.
Je suis une machine à gaffe, reconnaissait Joe Biden en décembre dernier. Pour cause, le candidat en la matière possède un tableau de chasse bien rempli. Exemple, en 2010, lorsqu'il s'adresse ainsi au Premier ministre irlandais le jour de la Saint-Patrick.
Sa maman a vécu 10 ans à Long Island, quelque chose comme ça. Que Dieu ait son âme. Mais attendez, votre mère est toujours en vie, c'est votre père qui est mort. Que Dieu ait son âme.
Des bourdes, parfois jusqu'à la faute politique, des mots d'esprit souvent graveleux, voire racistes, Joe Biden franchit régulièrement la ligne.
Dans le Delaware, la population qui connaît la plus forte croissance, ce sont les Américains venus d'Inde. Vous ne pouvez pas entrer dans une épicerie ou chez Dunkin' Donuts à moins d'avoir un léger accent indien.
Mais sa faute morale la plus grave reste sa gestion de l'affaire Anita Hill, du nom de cette jeune femme qui en 91 accusait Clarence Thomas, nommé à la Cour suprême, problème de harcèlement sexuel. Lors de ses auditions, elle sera accablée par une commission supervisée par Joe Biden.
Êtes-vous une femme aigrie ? Il me semble que vous n'avez pas vraiment essayé de le tuer. Mais peut-être auriez-vous dû.
Un boulet qui devrait peser sur sa campagne. Au premier jour de celle-ci, il a d'ailleurs appelé Anita Hill pour s'excuser. New York, Loïc Lory, France Inter.
En bref, encore à l'étranger, des comptes macabres au Sri Lanka. Le bilan des attentats a été revu à la baisse hier, de 359 à 253 morts. Certains corps avaient été comptés plusieurs fois. Les rues de Khartoum au Soudan envahies hier par des centaines de milliers de manifestants. Des manifestants qui avaient appelé à une marche du million pour faire pression sur le conseil militaire. Enfin, direction l'Arabie Saoudite pour terminer, Riyad qui se fait une joie d'accueillir l'an prochain le rallye Paris-Dakar. L'Arabie Saoudite qui compte bien sur cet événement sportif pour redorer son image. Une édition 2020 qui toutefois s'annonce très controversée. Faut-il un rallye dans un pays où les lapidations sont encore légales? Et visiblement sur place, ça n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup ni les pilotes ni les organisateurs. Reportage à Riyad de Guillaume Batin.
La cérémonie grandiose organisée en plein désert donne le ton. Les officiels se succèdent à la tribune. Deux heures après, dans une salle surclimatisée, les pilotes n'échappent pas aux questions sur les droits de l'homme, comme Stéphane Peter Ancel qui a tout connu, l'Afrique et l'Amérique du Sud.
De toute façon, les pilotes, on est tous des très grands égoïstes. On pense plus à nous, à notre propre plaisir, qu'au reste en fait. Et je pense qu'il faut rester comme ça, autrement ça peut nous remuer la tête.
Dans son discours, le prince Khalid bin Sultan Abdullah Al Faisal, président de la Fédération saoudienne de sport auto, parle du royaume du bien et du Dakar qui, grâce à Dieu, montrera l'Arabie saoudite sous son vrai visage.
Pour nous aussi, les droits de l'homme, c'est important, mais on ne voit pas les choses de la même manière. Je pensais que les Français étaient des gens mal polis. Non, vous êtes sympathiques. Je pensais qu'en allant aux États-Unis, je prendrais une balle dans la tête en pleine rue et je suis toujours vivant. Vous savez, le pire fait toujours la une des infos. C'est pour cela qu'on vous invite. On ne vous dit pas ce que vous devez écrire et nous sommes contents d'en discuter.
Discuter de la séance de lapidation en public du vendredi, par exemple. Une information qui pourtant ne fera pas la une de la presse saoudienne. À Riyad, Guillaume Batin, France Inter.
Et jetons que la Ligue des droits de l'homme a demandé à France Télévisions de dénoncer ce partenariat contraire, je cite, à ses principes et à ses valeurs.
Merci Sébastien Legénie.